La fête à Coqueville, suite. Cette nuit-là, le temps changea complètement. Lorsque Coqueville s'éveilla, le lendemain, un clair soleil luisait. La mer s'étendait sans un pli, comme une grande pièce de satin vert. Et il faisait chaud, une de ces chaleurs blondes d'automne. Le premier du village, la queue s'était levée, encore tout embarbouillée de ses rêves de la nuit. Il regarda longtemps la mer, à droite, à gauche. Enfin, l'air maussade, il dit qu'il fallait pourtant contenter M. Mouchel. Et il partit tout de suite, avec Tupin et Brisemotte, en menaçant Margot de lui caresser les côtes si elle ne marchait pas droit. Quand le zéphyr quitta le port et qu'il vit la baleine se balancer lourdement à son amarre, il s'égaya cependant un peu, criant « Aujourd'hui, par exemple, Bernic !»« Souffle la chandelle, Jeanneton, ces messieurs sont couchés !» Et dès que le zéphyr eut gagné le large, la queue tendit ses filets. Il alla visiter ensuite ses jambins. Les jambins sont des sortes de nasses allongées dans lesquelles on prend surtout des langoustes et des rougets. Mais malgré la mer calme, il eut beau visiter un à un ses jambins, tous étaient vides. Au fond du dernier, comme par dérision, il trouva un petit maquereau qu'il rejeta rageusement à la mer. C'était un véritable sort. Il y avait comme ça des semaines où le poisson se fichait de Coqueville, et toujours dans les moments où M. Mouchel témoignait un désir. Quand, une heure plus tard, la queue retira ses filets, il n'amena qu'un paquet d'algues. Du coup, il jura, les poings serrés, d'autant plus en colère que l'océan avait une sérénité immense, paresseux et endormi, semblable à une nappe d'argent bruni sous le ciel bleu. Le zéphyr, sans un balancement, glissait avec une douceur lente. La queue se décida à rentrer, après avoir tendu de nouveau les filets. L'après-midi, il viendrait voir, et il menaçait Dieu et les saints en sacrant des mots abominables. Cependant, Rouget, Fouasse et Delphin dormaient toujours. On ne parvint à les mettre debout qu'à l'heure du déjeuner. Ils ne se souvenaient de rien. Ils avaient simplement conscience de s'être régalés avec quelque chose d'extraordinaire qu'ils ne connaissaient pas. L'après-midi, comme ils étaient tous les trois sur le port, l'empereur essaya de les questionner, maintenant qu'ils avaient leur bon sens. Ça ressemblait peut-être à de l'eau de vie avec du jus de réglisse dedans. Ou bien, plutôt, on aurait dit du rhum, sucré et brûlé. Ils disaient oui, ils disaient non. D'après leur réponse, l'empereur soupçonna que c'était du ratafia, mais il ne l'aurait pas juré. Ce jour-là, Rouget et ses hommes avaient trop mal aux côtes pour aller à la pêche. D'ailleurs, il savait que la queue était sortie inutilement dans la matinée et il parlait d'attendre le lendemain avant de visiter leur jambin. Tous les trois, assis sur des blocs de pierre, ils regardaient la marée monter, le dos arrondi, la bouche pâteuse, dormant à moitié. Mais brusquement, Delphin s'éveilla. Il sauta sur la pierre, les yeux au loin, criant « Voyez donc, patron, là-bas !» « Quoi ?» demanda Rouget qui s'étirait les membres. « Un tonneau !» Rouget et Fouasse furent aussitôt debout, les regards luisants, fouillant l'horizon. « Où ça, gamin ? Où ça, un tonneau ?» répétait le patron très ému. « Là-bas, à gauche, ce point noir !» Les autres ne voyaient rien. Puis Rouget poussa un juron. « Nom de Dieu !» Il venait d'apercevoir le tonneau, gros comme une lentille sur l'eau blanche, dans un rayon oblique du soleil à son coucher. Et il courut à la baleine, suivi par Delphin et Fouasse, qui se précipitaient, tapant leur derrière de leurs talons et faisant rouler les cailloux. La baleine sortait du port lorsque la nouvelle qu'on voyait en mer un tonneau se répandit dans Coqueville. Les enfants, les femmes se mirent à courir. On criait « Un tonneau ! Un tonneau !» « Le voyez-vous ? Le courant le pousse à grand port. Ah oui, à gauche. Un tonneau, venez vite. Et Coqueville dégringolait de son rocher. Des enfants arrivaient en faisant la roue, tandis que les femmes ramassaient leurs jupes à deux mains pour descendre plus vite. Bientôt, comme la veille, le village entier fut sur la plage. Margot s'était montrée un instant, puis elle avait regagné à toutes jambes la maison où elle voulait prévenir son père, qui discutait un procès-verbal avec l'empereur. Enfin, la queue parut. Il était blême. Il disait au garde champêtre « Fichez-moi la paix. C'est Rouget qui vous a envoyé pour m'amuser. Eh bien, il ne l'aura pas, celui-là. Vous allez voir. » Lorsqu'il aperçut la baleine à 300 mètres, faisant force de rame vers le point noir qui se balançait au loin, sa fureur redoubla, et il poussa Tupin et Brisemotte dans le zéphyr. Il sortit du port à son tour en répétant « Non, ils ne l'auront pas. Je crèverai plutôt. » Alors, Coqueville eut un beau spectacle, une course enragée entre le zéphyr et la baleine. Quand celle-ci vit l'autre quitter le port, elle comprit le danger. Elle fila de toute sa vitesse. Elle pouvait avoir près de 400 mètres d'avance, mais les chances restaient égales, car le zéphyr était autrement léger et rapide. Aussi, l'émotion se trouvait-elle à son comble sur la plage. Les mailles et les floches avaient instinctivement formé deux groupes, suivant avec passion les péripéties de la lutte, chacun soutenant son bateau. D'abord, la baleine garda l'avantage. Mais lorsque le zéphyr eut pris son élan, on le vit qui la gagnait peu à peu. Elle fit un suprême effort et parvint pendant quelques minutes à conserver les distances. Puis, elle fut de nouveau gagnée, le zéphyr arrivait sur elle avec une rapidité extraordinaire. Dès ce moment, il fut évident que les deux barques allaient se rencontrer dans les environs du tonneau. La victoire dépendrait d'une circonstance, de la moindre faute. « La baleine ! La baleine !» criaient les Mahé. Mais ils se turent. Comme la baleine touchait presque le tonneau, le zéphyr, par une manœuvre hardie, venait de passer devant elle et de rejeter le tonneau à gauche, où la queue le harponna d'un coup de gaffe. « Le zéphyr ! Le zéphyr !» hurlèrent les floches. Et l'empereur ayant parlé de traîtrise, il y eut de gros mots échangés. Margot battait des mains. L'abbé Radiguet, descendu avec son bréviaire, fit une remarque profonde qui calma brusquement le monde et le consterna. « Ils vont peut-être tout boire, eux aussi » murmura-t-il d'un air mélancolique. En mer, de la baleine au zéphyr avait éclaté une violente querelle. Rouget traitait la queue de voleur, tandis que celui-ci l'appelait propre à rien. Les hommes prirent même leurs rames pour s'assommer, et il s'en fallut de peu que l'aventure ne tournât au combat naval. D'ailleurs, ils se donnaient rendez-vous à terre en se montrant le poing et en menaçant de se vider le ventre dès qu'ils se retrouveraient. « La canaille !» grognit Rouget. « Vous savez, le tonneau est plus gros que celui d'hier. Il est jaune, celui-là. Ça doit être du fameux. » Puis, d'un accent désespéré, « Allons voir les jambins. « Peut-être bien qu'il y a des langoustes. » Et la baleine s'éloigna lourdement, se dirigeant vers la pointe à gauche. Dans le zéphyr, la queue devait se fâcher pour contenir Tupin et Brisemotte devant le tonneau. La gaffe, en brisant un cercle, avait amené un suintement d'un liquide rouge que les deux hommes goûtaient du bout du doigt et qu'ils trouvaient exquis. On pouvait bien en boire un verre, sans que cela tirât à conséquence. Mais la queue ne voulait pas. Il cala le tonneau et déclara que le premier qui le sucerait aurait à causer avec lui. À terre, on verrait. « Alors, demanda Tupin Maussade, nous allons tirer les jambins ?»« Oui, tout à l'heure, ça ne presse pas, » répondit la queue. Lui aussi caressait le baril du regard. Il se sentait les membres mous, avec l'envie de rentrer tout de suite pour goûter à ça. Le poisson l'ennuyait. « Bah, dit-il au bout d'un silence. « Retournons, car il se fait tard. Nous reviendrons demain. » Et il lâchait la pêche, lorsqu'il aperçut un autre tonneau sur sa droite. Celui-là, tout petit, et qui se tenait debout, tournant sur lui-même comme une toupie. Ce fut le dernier coup pour les filets et les jambins. On n'en parla même plus. Le zéphyr donna la chasse au petit baril, qu'il pêcha fort aisément d'ailleurs. Pendant ce temps, une pareille aventure arrivait à la baleine. Comme Rouget avait déjà visité Saint-Jeanbin complètement vide, Delphin, toujours aux aguets, cria qu'il voyait quelque chose. Mais ça n'avait pas l'air d'un tonneau, c'était trop long. « C'est une poutre !» dit Fouasse. Rouget laissa retomber son sixième jambin sans le sortir complètement de l'eau. « Allons voir tout de même !» dit-il. À mesure qu'ils avançaient, ils croyaient reconnaître une planche, une caisse, un tronc d'arbre. Puis ils poussèrent un cri de joie. C'était un vrai tonneau, mais un tonneau bien drôle, comme jamais ils n'en avaient vu. On aurait dit un tuyau renflé au milieu et fermé aux deux bouts par une couche de plâtre. « Ah, il est comique !» cria Rouget ravi. « Celui-là, je veux que l'empereur le goûte. Allons, rentrons les enfants !» Ils tombèrent d'accord qu'ils n'y toucheraient pas. Et la baleine revint à Coqueville au moment même où, de son côté, le zéphyr s'amarrait dans le petit port. Pas un curieux n'avait quitté la plage. Des cris de joie accueillirent cette pêche inespérée de trois tonneaux. Les gamins lançaient leurs casquettes en l'air, tandis que les femmes étaient allées chercher des verres en courant. Tout de suite, on avait décidé de déguster les liquides sur place. Les épaves appartenaient au village. Aucune contestation ne s'éleva. Seulement, il se forma deux groupes. Les Mahé entourèrent Rouget, les Floches ne lâchèrent plus la queue. « L'empereur, à vous le premier verre !» cria Rouget. « Dites-nous ce que c'est !» La liqueur était d'un beau jaune d'or. Le garde champêtre leva le verre, regarda, flaira, puis se décida à boire. « Ça vient de Hollande » dit-il après un long silence. Il ne donna aucun autre renseignement. Tous les Mahé burent avec respect. C'était un peu épais et ils restèrent surpris à cause d'un goût de fleurs. Les femmes trouvèrent ça très bon. Quant aux hommes, ils auraient préféré moins de sucre. Pourtant, au fond, ça finissait par être fort au troisième ou au quatrième verre. Plus on en buvait, plus on l'aimait. Les hommes s'égayaient et les femmes devenaient drôles. Mais l'empereur, malgré ses récentes querelles avec le maire, était allé rôder dans le groupe des Floches. Le tonneau le plus grand donnait une liqueur d'un rouge foncé, tandis qu'on tirait du tout petit un liquide blanc, comme de l'eau de roche, et c'était celui-ci qui était le plus raide, un vrai poivre, quelque chose dont la langue pelait. Pas un des Floches ne connaissait ça, ni le rouge, ni le blanc. Il y avait pourtant là des malins. Ça les ennuyait de se régaler sans savoir avec quoi. « Tenez, l'empereur, goûtez-moi ça !» dit enfin la queue, faisant ainsi le premier pas. L'empereur, qui attendait l'invitation, se posa de nouveau en dégustateur. Pour le rouge, il dit « Il y a de l'orange là-dedans. » Et pour le blanc, il déclara « Ça, c'est du chouette !» On dut se contenter de ses réponses, car il hochait la tête d'un air entendu, avec la mine heureuse d'un homme qui avait satisfait son monde. Seul, l'abbé Radiguet ne semblait pas convaincu. Il voulait connaître les noms. Selon lui, il avait les noms au bout de la langue. Et, pour se renseigner tout à fait, il buvait des petits verres coup sur coup en répétant « Attendez, attendez, je sais ce que c'est. Tout à l'heure, je vais vous le dire. » Cependant, peu à peu, on s'était égayé dans le groupe des Mahé et dans le groupe des Floches. Ceux-ci surtout riaient fort parce qu'ils mélangeaient les liqueurs, ce qui les chatouillait davantage. Les uns et les autres, du reste, demeuraient à part. Ils ne s'offrirent pas de leur tonneau. Ils se jetaient simplement des regards sympathiques. Pris du désir inavoué de goûter au liquide du voisin, qui devait être meilleur. Les frères ennemis, Tupin et Fouasse, voisinèrent toute la soirée sans se montrer les poings. On remarqua aussi que Rouget et sa femme buvaient dans la même tasse. Quant à Margot, elle distribuait la liqueur chez les Floches, et comme elle emplissait trop les verres et que la liqueur lui coulait sur les doigts, elle se les suçait continuellement, si bien que, tout en obéissant à son père qui lui défendait de boire, elle s'était grisée, ainsi qu'une fille en vendange. Et ça ne lui allait pas mal, au contraire. Elle devenait toute rose, les yeux pareils à des chandelles. Le soleil se couchait. La soirée était d'une douceur de printemps. Coqueville avait achevé les tonneaux et ne songeait pas à rentrer dîner. On se trouvait trop bien sur la plage. Quand il fit nuit noire, Margot, assise à l'écart, sentit quelqu'un lui souffler sur la nuque. C'était Delphin, très gai, marchant à quatre pattes, rôdant derrière elle comme un loup. Elle retint un cri pour ne pas donner l'éveil à son père, qui aurait envoyé un coup de pied dans le derrière à Delphin. « Va-t'en, imbécile !» murmura-t-elle, moitié fâchée, moitié rieuse. « Tu vas te faire prendre !» 4. Le jour suivant, Coqueville, à son réveil, trouva le soleil déjà haut sur l'horizon. Il faisait plus doux encore, une mer assoupie sous un ciel pur, un de ces temps de paresse où il est si bon de ne rien faire. On était au mercredi. Jusqu'au déjeuner, Coqueville se reposa du régal de la veille. Puis, on descendit sur la plage pour voir. Ce mercredi-là, la pêche, la veuve du feu, Monsieur Mouchel, tout fut oublié. La queue et Rouget ne parlèrent seulement pas d'aller visiter leur jambin. Vers 3 heures, on signala des tonneaux. 4 dansaient en face du village. Le zéphyr et la baleine se mirent en chasse, mais comme il y en avait pour tout le monde, on ne se disputa point. Chaque bateau eut sa part. À 6 heures, après avoir fouillé le petit golfe, Rouget et la queue rentrèrent avec chacun 3 tonneaux. Et la fête recommença. Les femmes avaient descendu des tables pour plus de commodité. On apporta même des bancs. On établit 2 cafés en plein air, ainsi qu'il y en avait à Grand-Port. Les mahés étaient à gauche, les Floches à droite, séparés encore par une butte de sable. Pourtant, ce soir-là, l'empereur, qui allait d'un groupe à l'autre, promena des verres pleins, afin de faire goûter les 6 tonneaux à tout le monde. Vers 9 heures, on était beaucoup plus gai que la veille. Coqueville, le lendemain, ne put jamais se souvenir de quelle façon il s'était couché. Le jeudi, le zéphyr et la baleine ne pêchèrent que 4 tonneaux, 2 chacun. Mais ils étaient énormes. Le vendredi, la pêche fut superbe, inespérée. Il y eut 7 tonneaux, 3 pour Rouget et 4 pour la queue. Alors, Coqueville entra dans un âge d'or. On ne faisait plus rien. Les pêcheurs, cuvant les alcools de la veille, dormaient jusqu'à midi. Puis, ils descendaient en flânant sur la plage. Ils interrogeaient la mer. Leur seul souci était de se demander quelle liqueur la marée allait leur apporter. Ils restaient là des heures, les yeux braqués. Ils poussaient des cris de joie dès qu'une épave apparaissait. Les femmes et les enfants, du haut des rochers, signalaient avec de grands gestes jusqu'au moindre paquet d'algues roulé par la vague. Et, à toute heure, le zéphyr et la baleine étaient prêts à partir. Ils sortaient, ils battaient le golfe, ils pêchaient au tonneau, comme on pêche au thon, dédaigneux maintenant des maquereaux tranquillisés qui cabriolaient au soleil, et des soles paresseuses bercées à fleurs d'eau. Coqueville suivait la pêche en crevant de rire sur le sable. Puis, le soir, on buvait la pêche. Ce qui enthousiasmait Coqueville, c'était que les tonneaux ne cessaient pas. Quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Il fallait vraiment que le navire qui s'était perdu eût une jolie cargaison à bord. Et Coqueville, devenu égoïste et gai, plaisantait ce navire naufragé, une vraie cave à liqueur, de quoi saouler tous les poissons de l'océan. Avec ça, jamais on ne pêchait un tonneau semblable. Il y en avait de toutes les formes, de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs. Puis, à chaque tonneau, c'était un liquide différent. Aussi l'empereur était-il plongé dans de profondes rêveries. Lui, qui avait bu de tout, il ne s'y reconnaissait plus. La queue déclarait que jamais il n'avait vu un chargement pareil. L'abbé Radiguet croyait à une commande faite par quelque roi sauvage, voulant monter sa cave. D'ailleurs, Coqueville ne cherchait plus à comprendre, bercé dans des griseries inconnues. Les dames préféraient les crèmes. Il y eut des crèmes de moka, de cacao, de menthe, de vanille. Marie Rouget but un soir tant d'anisette qu'elle en fut malade. Margot et les autres demoiselles tapèrent sur le curaçao, la bénédictine, la trappistine, la chartreuse. Quant au cassis, il était réservé aux petits enfants. Naturellement, les hommes se réjouissaient davantage lorsqu'on pêchait des cognacs, des rhums, des genièvres, tout ce qui emportait la bouche. Puis, des surprises se produisaient. Un tonneau de raki de Kio au mastic stupéfia Coqueville, qui crut être tombé sur un tonneau d'essence de térébenthine. On le but tout de même, parce qu'il ne faut rien perdre. Mais on en parla longtemps. La raque de Batavia, l'eau-de-vie suédoise au cumin, le tuica calugaresca de Roumanie, le slivovitz de Serbie, bouleversèrent également toutes les idées que Coqueville se faisait de ce qu'on peut avaler. Au fond, il eut un faible pour le cumel et le kirsch, des liqueurs claires comme de l'eau et raides à tuer un homme. Était-il Dieu possible qu'on eût inventé tant de bonnes choses? À Coqueville, on ne connaissait que l'eau de vie, et encore pas tout le monde. Aussi les imaginations finissaient-elles par s'exalter. On en arrivait à une véritable dévotion en face de cette variété inépuisable dans ce qui saoule. Oh, se saouler chaque soir avec quelque chose de nouveau et dont on ignorait même le nom, ça semblait un conte de fées, une pluie, une fontaine qui aurait craché des liquides extraordinaires, tous les alcools distillés, parfumés avec toutes les fleurs et tous les fruits de la création. Donc, le vendredi soir, il y avait 7 tonneaux sur la plage. Coqueville ne quittait plus la plage. Il y vivait, grâce à la douceur du temps. Jamais, en septembre, on n'avait joui d'une semaine si belle. La fête durait depuis le lundi, et il n'y avait pas de raison pour qu'elle ne durât pas toujours, si la Providence continuait à envoyer des tonneaux. Car l'abbé Radiguet voyait là le doigt de la Providence. Toutes les affaires étaient suspendues. À quoi bon trimer, du moment où le plaisir venait en dormant? On était tous bourgeois, des bourgeois qui buvaient des liqueurs chères, sans avoir rien à payer au café. Les mains dans les poches, Coqueville jouissait du soleil, attendait le régal du soir. D'ailleurs, il ne dessoulait plus. Il mettait bout à bout les gaietés du cumel, du kirsch, du ratafia. En 7 jours, il connut les colères du gin, les attendrissements du curaçao, les rires du cognac. Et Coqueville restait innocent comme l'enfant qui vient de naître, ne sachant rien de rien, buvant avec conviction ce que le bon Dieu lui envoyait. Ce fut le vendredi que les Mahés et les Floches fraternisèrent. On était très gais ce soir-là. Déjà la veille, les distances s'étaient rapprochées. Les plus gris avaient piétiné la butte de sable qui séparait les deux groupes. Il ne restait qu'un pas à faire. Du côté des Floches, les 4 tonneaux se vidaient, tandis que les Mahés achevaient également leurs 3 petits barils. Juste 3 liqueurs qui faisaient le drapeau français, une bleue, une blanche et une rouge. la bleue emplissait les floches de jalousie, parce qu'une liqueur bleue leur paraissait une chose vraiment surprenante. La queue, devenu bonhomme, depuis qu'il ne dessoulait plus, s'avança, un verre à la main, comprenant qu'il devait faire le premier pas comme magistrat. « Voyons, Rouget, bégaya-t-il, veux-tu trinquer ?»«
Je veux bien, »
répondit Rouget, qui chancelait d'attendrissement. Et ils tombèrent au cou l'un de l'autre. Alors tout le monde pleura, tellement on était ému. Les mailles et les floches s'embrassèrent, eux qui se dévoraient depuis 3 siècles. L'abbé Radiguet, très touché, parla encore du doigt de Dieu. On trinqua avec les 3 liqueurs, la bleue, la blanche et la rouge. « Vive la France !» criait l'empereur. La bleue ne valait rien, la blanche pas grand-chose, mais la rouge était vraiment réussie. On tapa ensuite sur les tonneaux des floches, puis on dansa. Comme il n'y avait pas de musique, des garçons de bonne volonté frappaient dans leurs mains en sifflant, ce qui enlevait les filles. La fête devint superbe. Les 7 tonneaux étaient rangés à la file. Chacun pouvait choisir ce qu'il aimait le mieux. Ceux qui en avaient assez s'allongeaient sur le sable, où ils dormaient un somme. Et quand ils se réveillaient, ils recommençaient. Les autres élargissaient peu à peu le bal, prenaient toute la plage. Jusqu'à minuit, on sauta en plein air. La mer avait un bruit doux. Les étoiles luisaient dans un ciel profond, d'une paix immense. C'était une sérénité des âges enfants, enveloppant la joie d'une tribu de sauvages grisée par son premier tonneau d'eau-de-vie. Pourtant, Coqueville rentrait encore se coucher. Quand il n'y avait plus rien à boire, les floches et les mahés cédaient, se portaient et finissaient tant bien que mal par retrouver leur lit. Le samedi, la fête dura jusqu'à près de 2 heures du matin. On avait pêché 6 tonneaux, dont 2 énormes. Foix et Tupin faillirent se battre. Tupin, qui avait l'ivresse méchante, parlait d'en finir avec son frère. Mais cette querelle révolta tout le monde, aussi bien les floches que les mahés. Est-ce qu'il était raisonnable de se disputer encore, lorsque le village entier s'embrassait? On força les 2 frères à trinquer ensemble. Ils rechignaient, l'empereur se promit de les surveiller. Le ménage Rouget non plus n'allait pas bien. Quand Marie avait bu de l'anisette, elle prodiguait à Brisemotte des amitiés que Rouget ne pouvait voir d'un œil calme. D'autant plus que, devenu sensible, lui aussi voulait être aimé. L'abbé Radiguet, plein de mansuétude, avait beau prêcher le pardon des injures, on redoutait un accident.
« Bah !» disait la queue. « Tout s'arrangera. Si la pêche est bonne demain, vous verrez. À votre santé !»
Pourtant, la queue lui-même n'était pas encore parfait. Il guettait toujours Delphin, et lui allongeait des coups de pied dès qu'il le voyait s'approcher de Margot. L'empereur s'indignait, car il n'y avait pas de bon sens à empêcher de jeunesse de rire. Mais la queue jurait toujours de tuer sa fille plutôt que de la donner au petit. D'ailleurs, Margot n'aurait pas voulu.
« N'est-ce pas? Tu es trop fière !» criait-il. « Jamais tu n'épouseras un gueux !»«
Jamais, papa !» répondait Margot. Le samedi, Margot but beaucoup d'une liqueur sucrée. On n'avait pas idée d'un sucre pareil. Comme elle ne se méfiait point, elle se trouva bientôt assise près du tonneau. Elle riait, heureuse, en paradis. Elle voyait des étoiles, et il lui semblait qu'il y avait en elle une musique jouant des airs de danse. Ce fut alors que Delphin se glissa dans l'ombre des tonneaux. Il lui prit la main, il demanda « Dis, Margot, veux-tu ?» Elle souriait toujours, puis elle répondit « C'est papa qui ne veut pas. »«
Oh, ça ne fait rien, » reprit le petit.
« Tu sais, les vieux ne veulent jamais, pourvu que tu veuilles, toi. » Et il s'enhardit, il lui mit un baiser sur le cou. Elle se rengorgea, des frissons couraient le long de ses épaules.
« Fini, tu me chatouilles !»
Mais elle ne parlait plus de lui allonger des claques. D'abord, elle n'aurait pas pu, car elle avait les mains trop molles. Puis, ça lui semblait bon, les petits baisers sur le cou. C'était comme la liqueur qui l'engourdissait délicieusement. Elle finit par rouler la tête et par tendre le menton, ainsi qu'une chatte.
« Tiens, bégaya-t-elle, là, sous l'oreille, ça me démange.
Oh, c'est bon !» Tous deux oubliaient la queue. Heureusement, l'empereur veillait. Il les fit voir à l'abbé Radiguet en disant
« Regardez donc, curé, il vaudrait mieux les marier. »
« Les mœurs y gagneraient, »
déclara sentencieusement le prêtre. Et il se chargea de l'affaire pour le lendemain. C'était lui qui parlerait à la queue. En attendant, la queue avait tellement bu que l'empereur et le curé durent le porter chez lui. En chemin, ils tâchèrent de le raisonner au sujet de sa fille, mais ils ne purent en tirer que des grognements. Derrière eux, Delphin ramenait Margot dans la nuit claire. Le lendemain, à 4 heures, le zéphyr et la baleine avaient déjà pêché 7 tonneaux. À 6 heures, le zéphyr empêcha 2 autres. Ça faisait 9. Alors, Coqueville fêta le dimanche. C'était le 7e jour qu'il se grisait. Et la fête fut complète. Une fête comme on n'en avait jamais vue. Et comme on n'en reverra jamais. Parlez-en dans la basse Normandie, on vous dira avec des rires. Ah oui, la fête à Coqueville. 5. Cependant, dès le mardi, Monsieur Mouchel s'était étonné de ne voir arriver à Grand-Port ni Rouget ni la queue. Que diable ces gaillards pouvaient-ils faire? La mer était belle, la pêche aurait dû être superbe. Peut-être bien qu'il voulait d'un coup apporter toute une charge de sole et de langoustes. Et il patienta jusqu'au mercredi. Le mercredi, M. Mouchel se fâcha. Il faut savoir que la veuve du feu n'était pas commode. C'était une femme qui, tout de suite, en venait aux gros mots. Bien qu'il fût un beau gaillard, blond et fort, il tremblait devant elle, d'autant plus qu'il rêvait de l'épouser. Toujours aux petits soins, quitte à la calmer d'une gifle s'il devenait jamais le maître. Or, le mercredi matin, la veuve du feu tempêta, en se plaignant que les envois ne se faisaient plus, que la marée manquait. Et elle l'accusait de courir les filles de la côte au lieu de s'occuper du merlan et du maquereau, qui auraient dû donner en abondance. Monsieur Mouchel, vexé, se rejeta sur le singulier manque de parole de Coqueville. Un moment, la surprise apaisa la veuve du feu. À quoi songeait donc Coqueville? Jamais il ne s'était conduit de la sorte. Mais elle déclara aussitôt qu'elle se fichait de Coqueville, que c'était à M. Mouchel d'aviser et qu'elle prendrait un parti s'il se faisait berner encore par les pêcheurs. Du coup, très inquiet, il envoya au diable Rouget et la queue. Peut-être tout de même qu'il viendrait le lendemain. Le lendemain, jeudi, ni l'un ni l'autre ne parut. Monsieur Mouchel, désespéré, monta vers le soir, à gauche de Grand-Port, sur le rocher d'où l'on découvre au loin Coqueville, avec la tache jaune de sa plage. Il regarda longtemps. Le village avait un air tranquille au soleil. Des fumées légères sortaient des cheminées. Sans doute les femmes préparaient la soupe. Monsieur Mouchel constata que Coqueville était toujours à sa place, qu'un rocher de la falaise ne l'avait pas écrasé, et il comprit de moins en moins. Comme il allait redescendre, il crut apercevoir 2 points noirs dans le golfe, la baleine et le zéphyr. Alors il revint calmer la veuve du feu. Coqueville pêchait. La nuit se passa, on était au vendredi. Toujours pas de Coqueville. Monsieur Mouchel monta plus de 10 fois sur son rocher. Il commençait à perdre la tête. La veuve du feu le traitait abominablement, sans qu'il trouvât rien à répondre. Coqueville était toujours là-bas,
au soleil, se chauffant comme un lézard paresseux. Seulement, M. Mouchel ne vit plus de fumée. Le village semblait mort. Seraient-ils tous crevés dans leurs trous? Sur la plage, il y avait bien un grouillement, mais ce pouvait être des algues poussées par la mer. Le samedi, toujours personne. La veuve du feu ne criait plus. Elle avait les yeux fixes, les lèvres blanches. Monsieur Mouchel passa 2 heures sur le rocher. Une curiosité grandissait en lui, un besoin tout personnel de se rendre compte de l'étrange immobilité du village. Ces masures, sommeillant béatement au soleil, finissaient par l'agacer. Sa résolution fut prise, il partirait le lundi, de très bon matin, et tâcherait d'être là-bas vers 9 heures. Ce n'était pas une promenade que d'aller à Coqueville. Monsieur Mouchel préféra suivre le chemin de terre. Il tomberait ainsi sur le village sans qu'on l'attendît. Une voiture le mena jusqu'à Robinieux, et il la laissa sous une grange, car il n'eût pas été prudent de la risquer au milieu des gorges. Et il partit gaillardement, ayant à faire près de 7 kilomètres dans le plus abominable des chemins. La route est d'ailleurs d'une beauté sauvage. Elle descend avec de continuels détours entre 2 rampes énormes de rochers, si étroites par endroits, que 3 hommes ne pourraient passer de front. Plus loin, elle longe des précipices. La gorge s'ouvre brusquement et l'on a des échappées sur la mer, d'immenses horizons bleus. Mais M. Mouchel n'était pas dans un état d'esprit à admirer le paysage. Il jurait lorsque des pierres roulaient sous ses talons. C'était la faute à Coqueville. Il se promettait de secouer ces fainéants de la belle manière. Cependant, il approchait. Tout d'un coup, au tournant de la dernière roche, il aperçut les 20 maisons du village, pendues au flanc de la falaise. 9 heures sonnaient. On se serait cru en juin, tant le ciel était bleu et chaud. Un temps superbe, un air limpide, doré d'une poussière de soleil, rafraîchi d'une bonne odeur marine. Monsieur Mouchel s'engagea dans l'unique rue du village, où il venait bien souvent. Et comme il passait devant la maison de Rouget, il entra. La maison était vide. Il donna ensuite un coup d'œil chez Fouasse, chez Tupin, chez Brisemotte. Pas une âme, toutes les portes ouvertes et personne dans les salles. Qu'est-ce que cela voulait dire? Un léger froid commençait à lui courir sur la peau. Alors, il songea aux autorités. Certainement, l'empereur le renseignerait. Mais la maison de l'empereur était vide comme les autres, jusqu'au garde champêtre qui manquait. Ce village désert et silencieux le terrifiait maintenant. Il courut chez le maire. Là, une autre surprise l'attendait. Le ménage se trouvait dans un gâchis abominable. On n'avait pas fait les lits depuis 3 jours, la vaisselle traînait, les chaises culbutées semblaient indiquer quelques batailles. Bouleversé, rêvant des cataclysmes, M. Mouchel voulut aller jusqu'au bout et il visita l'église. Pas plus de curé que de maire. Tous les pouvoirs et la religion elle-même avaient disparu. Coqueville, abandonné, dormait sans un souffle, sans un chien, sans un chat. Plus même de volailles, les poules s'en étaient allées. Rien, le vide, le silence, un sommeil de plomb sous le grand ciel bleu. Parbleu, ce n'était pas étonnant si Coqueville n'apportait point sa pêche. Coqueville avait déménagé. Coqueville était mort. Il fallait prévenir la police. Cette catastrophe mystérieuse exaltait M. Mouchel, lorsque, ayant eu l'idée de descendre sur la plage, il poussa un cri. Au milieu du sable, la population entière gisait. Il crut à un massacre général. Mais des ronflements sonores vinrent le détromper. Dans la nuit du dimanche, Coqueville avait fait la fête si tard qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de rentrer se coucher. Alors, il avait dormi sur le sable, à la place même où il était tombé, autour des 9 tonneaux, complètement bu. Oui, tout Coqueville ronflait là. J'entends les enfants, les femmes, les vieillards et les hommes. Pas un n'était debout. Il y en avait sur le ventre, il y en avait sur le dos. D'autres se tenaient en chien de fusil. Comme on fait son lit, on se couche. Et les gaillards se trouvaient semés au petit bonheur de l'ivresse, pareils à une poignée de feuilles que le vent a roulées. Des hommes avaient culbuté, la tête plus basse que les talons. Des femmes montraient leur derrière. C'était plein de bonhomie, un dortoir au plein air, des braves gens en famille qui se mettaient à l'aise, car où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Justement, on était à la nouvelle lune. Coqueville, croyant avoir soufflé sa chandelle, s'était abandonné dans le noir. Puis le jour avait grandi, et maintenant le soleil flambait, un soleil qui tombait d'aplomb sur les dormeurs, sans leur faire cligner les paupières. Ils dormaient rudement, tous la face réjouie avec la belle innocence des ivrognes. Les poules, de grand matin, devaient être descendues piquer les tonneaux, car elles étaient saoules, elles aussi, couchées dans le sable. Même il y avait 5 chats et 3 chiens, les pattes en l'air, gris d'avoir sucé les vers, ruisselant de sucre. Un instant, M. Mouchel marcha au milieu des dormeurs, en ayant soin de n'écraser personne. Il comprenait, car on avait également recueilli à Grand-Port des tonneaux provenant du naufrage d'un navire anglais. Toute sa colère était tombée. Quel spectacle touchant et moral! Coqueville réconcilié, les mailles et les floches couchés ensemble. Au dernier verre, les pires ennemis s'étaient embrassés. Tupin et Fouasse ronflaient la main dans la main, en frères incapables à l'avenir de se disputer un héritage. Quant au ménage Rouget, il offrait un tableau plus aimable encore. Marie dormait entre Rouget et Brismotte, comme pour dire que, désormais, ils vivraient ainsi, heureux tous les trois. Mais un groupe, surtout, faisait une scène de famille attendrissante. C'était Delphin et Margot, au cou l'un de l'autre. Ils sommeillaient, la joue contre la joue, les lèvres encore ouvertes par un baiser. À leurs pieds, l'empereur, couché en travers, les gardait. Au-dessus d'eux, la queue ronflait en père satisfait d'avoir casé sa fille, tandis que l'abbé Radiguet, tombé là comme les autres, les bras élargis, semblait les bénir. En dormant, Margot tendait toujours son museau rose, pareil à une chatte amoureuse qui aime qu'on la gratte sous le menton. La fête avait fini par un mariage, et M. Mouchel lui-même, plus tard, épousa la veuve du feu, qu'il battit comme plâtre. Parlez-en dans la basse Normandie, on vous dira avec des rires. Ah oui, la fête à Coqueville !